Et bienvenue dans l'épisode 3 du calendrier de l'après.
Épisode 3 sur 4 du calendrier de l'après.
Et on va parler. On va vous conseiller encore. Enfin, vous conseiller.
Vous obliger à regarder
6 nouveaux films qui nous ont marqué pour l'année. Pour la décennie. 2010-2019.
Je rappelle qu'il y aura une fiche de lecture à la fin
de
la semaine.
Quels sont les 6 prochains films à voir pour cette semaine? Les conseils. On commence tout de suite. C'est moi qui commence.
C'est
simplement,
comme d'hab. Ça fait 2 semaines que je me fais couper la parole. C'est pas grave.
Tu parles beaucoup. Hein. Tu parles plus que moi parce que moi je passe des extraits, c'est pour ça. Donc moi, le film duquel je vais parler, c'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Donc c'est un film en noir et blanc, tourné à la péloche. Non, Bertrand Mandico, il a pas fait beaucoup de longs métrages, je crois un seul d'ailleurs, c'est Les Garçons Sauvages.
Eh ben dis donc.
Je suis pas sûr de ce que je raconte, mais
j'ai pas vu le film, mais c'est bien.
Non, mais que ce soit le seul, mais voilà. Et donc c'est presque un artiste plasticien, donc il va vachement jouer sur les décors, sur le grain, enfin l'aspect visuel de l'image, etc.
La matière.
La matière, exactement. C'est en quelque sorte un plasticien. Et donc là, l'histoire, c'est donc les garçons sauvages, c'est des garçons qui font un peu trop de bêtises, des jeunes garçons, et qui donc sont envoyés en quelque sorte chez un gars qui est censé les recadrer et les faire devenir sages. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas trop devenir sages, ils vont plutôt devenir des m***. Voilà. Je sais pas si j'ai spoilé en fait. Tu biperas.
Rappel, bip.
Ils sont censés régler ces problèmes.
Donc ils vont devenir des bips.
Ils vont devenir des bips. Tu biperas quand même. Oui. Et donc c'est un film qui est visuellement assez incroyable, avec des acteurs, assez incroyables. Et enfin, tout est magnifique dans ce film. C'est très poétique, c'est glauque, c'est dérangeant, mais c'est...
Ça a l'air... l'ambiance sonore est en tout cas très...
Ouais, c'est...
Prenante.
Ouais. Figure-toi que...
J'écoute ça pour faire l'amour, moi.
Bizarre.
Vraiment, tu juges un petit peu trop.
Bah, il y a de quoi juger quand même un peu.
Après, j'avais dit que je sais que c'est pas énormément, donc bon...
C'est vrai, je comprends du coup.
Non, mais c'est genre... Pourquoi une fois par mois, c'est un rituel, tu vois.
Ouais, mais du coup, tu prends le temps sur des grosses musiques.
Une petite bâche, voilà.
Avec des musiques qui grésillent.
Ouais, voilà. Grâce à la technique.
Grâce à la technique du grésillement, par exemple.
Oui.
Les garçons sauvages que de Bertrand
Mandico. Tu m'as donné envie de le voir, me spoilant.
Je t'ai spoilé, sachant que j'ai pas spoilé.
Les internautes. Je déteste ce terme. Alors, moi, je vais encore une fois être le gars débile qui a vu que des films grand public. Mais je parle évidemment de Into the Spider-Verse de Percy Cathy, Ramsey et Rothman.
Ouais.
3 réalisateurs pour un film comme ça, car il a pris énormément de temps à se faire. Il est, je pense que tout le monde l'a déjà dit 1000 fois, mais...
Génial.
Il est... Déjà, on veut parler graphique... Tout est pensé. C'est des amoureux qui ont fait ça. C'est des gens qui aiment profondément ce qu'ils font. Et déjà, c'est rare.
Ça se voit, ça se sent.
C'est rare dans un film américain à plutôt grand budget, même en animation. Même si c'est en animation, généralement, c'est des films plus touchants, plus personnels. Mais là, vraiment, déjà, le fait que ce soit un Spider-Man noir change. Et fait plaisir à voir, parce que évidemment, moi étant un mec blanc, je m'identifie très facilement à Spider-Man, mais je pense à tous les mecs ou même les meufs noirs ou qui sont juste pas blancs en fait, qui peuvent pas s'identifier à que des personnages qui sont tous blancs,
voilà.
Et rien que ça déjà ça fait plaisir, et en plus, c'est pas juste pour qu'il soit noir.
Voilà.
Hein, et
c'est c'est pas le film a pas été fait, enfin
oui.
il y a déjà eu.
C'est un vrai personnage. Ils auraient pu choisir un personnage plus facile, mais
c'est clair.
Mais c'était osé.
Non, c'était osé.
Et le résultat est incroyable. Par image,
visuellement.
Déjà visuellement, mais dans l'histoire, comment c'est touchant, ce que ça raconte. Et il y a un détail par image qui te fait pleurer quand tu connais le contexte. Les blagues visuelles sont vraiment très drôles. Il y a un gars qui lance un bagel sur un autre et quand il touche, ça fait bagel, il y a écrit bagel au moment où l'impact comme dans les comics où il y a marqué pow,
kapow. Oui, c'est très inspiré de l'esthétique comics. C'est très très bien fait. Hein.
C'est littéralement fait sur des le flou. C'est des petits ronds.
Oui, oui, c'est des trames.
Voilà, tout est net et
le flou est fait par des trames plus. Enfin bref, c'est
plus large.
Et surtout, enfin l'animation aussi est. Enfin, j'ai vu des vidéos. Il y a plein de vidéos qui étudient l'animation de Spider-Verse,
oui.
Où ils te montrent en fait que par exemple ils utilisent différentes techniques d'animation en fonction des personnages
et de la scène
en fonction de ce qu'ils représentent. Genre en fait il y a un truc, c'est animé en 12 images par seconde, je crois.
Certaines scènes sont en 24.
Oui, certaines scènes sont en 24
pour les films, et d'autres parfois, 12 doublées.
Voilà, oui, voilà, c'est ça. Et parfois, en fait, les personnages, par exemple, sont en décalé, c'est-à-dire ils sont animés en décalé, c'est-à-dire quand il y en a un qui va bouger, l'autre il va rester immobile, oui, sur une image, et quand l'autre bouge, l'autre reste immobile sur une image, oui, bref, etc. Et par exemple, quand il y a des scènes où ils sont pas coordonnés, etc., et quand ils sont coordonnés, bam, ça va se coller.
Ça passe en 24.
C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin. Pour raconter leur histoire.
C'est l'exemple de la technique au service de l'histoire.
Voilà, c'est ça. C'est tout simplement somptueux. J'ai voulu le mettre dans mon top, mais il l'a pris, je lui ai laissé.
C'est ça. Et le deuxième film dont je vais parler tout à l'heure, ouais, aussi. Mais voilà, donc voilà. Tout le monde l'a vu, tout le monde en a parlé. Mais tout c'est important de lui rendre hommage dans ces films qui ont marqué la décennie, parce que même arrivé tard. En 2018, tout le monde a dit « Ouais, bah c'est le film d'animation même du siècle pour l'instant. Presque. »
Bah ouais, presque.
Et puis c'est tellement original. Enfin,
oui,
c'est
génial.
Tu peux le comparer à aucun autre film.
C'est fou. Moi, je le considère même... Enfin,
pas un film, c'est un chef-d'œuvre.
C'est à la fois une BD, c'est un film. La BO est géniale,
Post Malone. Post Malone,
ouais, bah, c'est la musique qu'on a mis tout à l'heure.
Oui,
voilà.
Sunflower. Bref.
Voilà, donc ensuite...
De quoi vas-tu nous parler juste après?
Je vais vous parler de La Fille du 14 juillet.
Mais ce serait pas un film français par hasard?
D'Antonin Peredjatko. Donc c'est une comédie française, évidemment.
je me doute bien.
De gauche, hein, comme tous les films que je conseille. Peut-être L'Enlèvement de Michel Houellebecq est un peu de gauche. Non mais c'est de gauche quand même.
Caviar.
Quoi? Non, c'est pas gauche caviar justement, c'est gauche... Enfin, c'est... Disons que c'est des films sur... La vraie gauche, quoi. Gauche.
Les vrais gens.
La gauche communiste des années 50. Bref. Non, et là donc, Antonin Peredjatko, c'est avec une un peu une... C'est un film qui parle...
C'est peut-être juste...
Bah, en fait, je vais mettre un extrait. Quoi ?
Le Loup de Wall Street, peut-être moins de gauche.
Moins de gauche. Moins de gauche, le Loup de Wall Street. Enfin, quoique, un peu de gauche. Hein.
Oh.
Bah, c'est une critique, donc bref. La Fille du 14 juillet, je vais vous passer un petit extrait pour que vous compreniez de quoi on parle.
Allez, faites comme chez vous, hein, prenez les patins. Allez, comme chez vous.
De toute façon, avec tout ce qui se passe...
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, vous êtes pas au courant ?
Non, bah quoi ?
Bah, la rentrée est avancée d'un mois.
La rentrée est avancée dans moi.
Oui, la rentrée est avancée dans moi. Vous croyez tout de même pas qu'il fait ça pour s'amuser ? 25 pages de devoirs de vacances, il a 3 jours pour terminer. La preuve ?
La rentrée avancée d'un mois a déclenché quelques émeutes sporadiques menées par divers groupuscules anarcho-syndicalistes. Par mesure de prévention, le président de la République a fait appel à l'armée pour remettre de l'ordre dans le pays. Le ministère de l'Information a fait le bien fondé. La rentrée avancée d'un mois a déclenché quelques émeutes sporadiques menées par divers groupuscules anarcho-syndicalistes.
Y'a pas des jeux ? Ah bah voilà !
La grille. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu l'ambiance du film. Donc ce qui est très particulier chez Antonin Peredjatko, c'est qu'il accélère ses images, ce qui donne un rendu très particulier et très drôle.
Ouais.
C'est de l'humour un peu sur... Enfin voilà, il y a une réplique que j'adore, c'est sur la route des vacances, t'as Vincent Macaigne, que j'adore aussi, qui dit « Ah, c'est bien les vacances, merci le Front Populaire !» Et donc, ça me fait rire. Pas toi, visiblement, ça te... Aucune réaction.
Non, si c'est drôle, mais.
Bref, c'est le jeu d'acteur et c'est pour le coup là, c'est très parisien comme film. C'est les vacances des Parisiens, quoi. C'est Antonin Peredjatko, c'est un pur produit parisien.
Oui.
Vous avez compris. Et donc voilà, j'adore.
Alors moi, mon deuxième film, je vais aller très vite, c'est Réalité de Quentin Dupieux.
Oui, tout
il
à fait.
Il a pas mis la musique.
J'ai pas mis la musique, mais elle est là, en fait.
De toute façon, tu mets juste 2 secondes de la musique et c'est toujours la même chose, mais... Ouais, voilà. Réalité de Quentin Dupieux, d'ailleurs, que je salue, qui était venu me voir sur un de mes tournages, parce que je l'ai croisé dans Paris. bref. Très, très, très bon, très drôle, très, très bien réalisé. Absurde comme j'aime. Enfin, c'est... Je sais pas comment décrire le film. Ce film ne se décrit pas, il se vit, et c'est complètement branle-couille de dire ça. Mais vraiment, autant il y a des Dupieux où c'est plus comédie, genre le dernier qui s'appelle Au Poste, ou Le Dain, c'est toujours absurde, mais c'est plus des comédies, l'absurde est au service de la blague. La réalité, c'est une plongée dans la folie, dans le psyché. La fin, pareil, il y a je sais pas combien de films que j'ai conseillé qui font ça, mais la fin me fait dire waouh. Vraiment, ouais. Je l'ai regardé la première fois, je devais partir juste après en bus. C'est pas très drôle ça.
Non, mais c'est marrant,
mais
de
c'est juste
préciser.
Je devais partir juste après la fin du film parce que c'était pile poil timé pour que j'aille encore juste après. Et je suis resté 5 minutes dans mon canapé, mais vraiment, j'exagère pas. 5 minutes dans mon canapé à penser à ce que je venais de voir. Genre, j'ai eu un peu le syndrome de Stendhal devant ce film. C'est c'est incroyable, et ça, il ne se décrit pas, il se regarde juste, vraiment.
Ouais,
il
non,
se
clairement.
Regarde, il n'y a rien à savoir.
Moi,
sur le scénario.
J'ai raconté une petite anecdote sur réalité, c'est que quand je suis allé le voir avec un pote, on était 4 au début dans la salle, et à la fin on était plus que 2, moi et mon pote. Donc voilà, c'est pas un film pour tout le monde, quoi.
Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent détester, voilà. Mais quand tu aimes le film, tu peux pas l'aimer à moitié, en fait. C'est un film qui
est
tellement un ovni, en plus il est français. Ouais. Quentin Dupieux.
Et mon pote m'a détesté d'ailleurs pour l'avoir amené voir ça.
Ouais, donc en fait, y'a que toi qui
ouais,
aimé.
C'est ça, y'a que
sur
moi.
4, sur...
s'il était tout seul, il serait parti.
Ok. Bon, bah voilà. Non, mais j'ai fait le tour et puis je te laisse continuer rapido.
Eh bien, formidable. On va continuer avec mon troisième film. Pas du tout, c'était déjà là.
The Hunt.
C'est ça, exactement. C'est La Chasse. La Chasse, c'est un film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. Mais je sais plus comment on dit. Bref, et en gros, alors l'histoire que ça raconte, c'est assez incroyable parce que ça raconte l'histoire en fait d'un homme qui travaille dans une garderie d'enfants, enfin dans une maternelle, je sais pas comment on dit, ouais, une sorte de maternelle quoi.
Ouais.
Et en fait, qui est accusé de pédophilie par une enfant, sauf que elle invente totalement l'histoire.
D'accord.
Et donc c'est censé être quelque chose que tu t'interdis de penser. Enfin, c'est une probabilité en fait qui est tellement qui n'existe pas que tu t'interdis de te dire. Et si en fait une enfant qui accuse un homme, un adulte de l'avoir,
ouais,
en décrivant des choses assez, enfin assez explicites, t'es obligé de la croire.
Oui.
T'es obligé de croire l'enfant. Et du coup c'est un peu ce film qui montre que, enfin genre, qu'il est impuissant. Enfin, parce qu'il perd tous ses potes, il perd tout ça. C'est un peu le truc un peu que t'as pas le droit de penser ou de.
Oui,
de truc.
C'est impossible.
C'est pas impossible en soi parce que.
Non, mais tu te dis que c'est impossible.
Ouais, tu te dis que c'est impossible et que même si c'est possible, le risque est trop grand en fait pour croire. Surtout qu'à la fin en fait. Enfin, bref, non, je vais pas raconter la fin, qu'est-ce qu'il y a, n'importe quoi. Bref,
est-ce que la fin, t'es waouh, parce que moi, c'est mon critère.
à la fin, t'es waouh, mais ouais, t'es waouh à la fin.
Ok, bah c'est mon critère waouh.
Mais parce qu'en fait, c'est un film extrêmement bien réalisé, Thomas Vinterberg, c'est très bon. Il a un petit truc sur la pédophilie, puisqu'il avait déjà réalisé Feston. Fin des années 90, donc il raconte l'histoire d'un homme qui avoue cette fée, quelque sorte, avoir subi des actes de pédophile par son père.
D'accord.
À un repas de famille général et.
Ça me dit quelque chose.
Et ce film est génial, bref. Du coup, ça me permet aussi de parler de Feston. Donc, La Chasse et Feston, c'est des films assez durs. Voilà.
Touchant.
Non, pas touchant, parce que c'est. Enfin, si, c'est touchant.
C'est le truc qu'on dit à chaque fois.
Mais c'est. En fait, ça te fait questionner.
C'est une expérience.
C'est une expérience, voilà. C'est un peu comme les films de Lars von Trier, c'est des expériences de pensée, j'aime bien à dire. Qu'est-ce que tu. Enfin, genre, c'est des trucs qui sont impossibles, mais enfin, c'est. Moi, je trouve ça fou. Donc voilà, La Chasse de Thomas Vinterberg.
D'accord, d'accord. Eh ben, c'est noté. Alors moi, mon dernier film, complètement hors de...
Alors
de,
là, aucun rapport.
Aucun rapport de aucun film dont, dont on a parlé tous les deux depuis le début, depuis les deux semaines. C'est le deuxième opus d'une saga que t'as pas...
D'une saga
dont t'as pas besoin d'avoir vu le premier, qui est réalisé par Cad et Olivier. Et ceux qui connaissent Cad et Olivier savent de quel film je veux parler. Cad et Olivier qui est un gros... Cad Merad et Olivier Barouin.
J'ai un extrait au pire. Enfin,
on a un extrait, mais vraiment, juste, le titre c'est « Mais qui a retué Pamela Rose voilà. ?» Et pour moi, déjà rien, le titre est déjà fou. Et un extrait, puis on en parle juste après.
Voilà.
Bien, j'imagine que tu n'aurais pas voulu que ton père sache que tu as oublié ça au cimetière.
C'est un soutif. Hein.
Vous allez me le rendre, c'est le seul que j'ai.
Bien. Cette nuit-là, tu as vu quelque chose et tu as peur de le raconter. Je te rappelle qu'une enquête est en cours.
L'homme qui a volé le cercueil...
Attends. Raconte-moi tout, depuis le début.
J'étais au cimetière.
Seul ? Réponds. Je te rappelle qu'une enquête est en cours.
Avec Ronald, mon fiancé.
Et qu'est-ce que vous y faisiez ?
Des bisous.
Avec la langue ? Réponds, je te rappelle qu'une anglaise la rend encore dans le courant.
Oui.
Et après le bisou ?
Il a glissé sa main sous mon pull.
Donc là, on dirait qu'il se touche, mais il fait juste des têtes bizarres. Et
ouais,
il
joue. Ouais.
Est-ce qu'il t'a touché les tétons ? Réponds. Je te rappelle qu'une quéquette est au four.
Voilà, une quéquette est au four.
Alors, ce film, au-delà de ça, c'est peut-être pas l'extrait le plus représentatif de l'humour du film, mais c'est que des blagues. En fait, c'est ce film-là qui, je pense, a forgé mon humour.
Ouais.
Pas misogyne sur les tétons des femmes, hein, mais mon humour sur l'humour absurde et l'humour de situation.
Déjà, Cad Merad, moi je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui crachent sur Cad Merad, moi j'adore Cad Merad.
Il a fait beaucoup de choses que j'aime bien et beaucoup de choses que j'aime moins.
Bon, il a jamais fait des trucs horribles, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu vois,
il a toujours été
Bienvenue chez les Ch'tis, c'est mignon, tu vois.
Oui, c'est toujours pas ouf, mais c'est pas problématique, tu vois.
Non, c'est même pas problématique, c'est toujours un peu drôle quand même.
Oui, il y a toujours de l'intention d'être gentil. Mais là, de Cad et Olivier, donc c'est leur premier film, Mais qui a tué Pamela Rose, que je trouve est moins bon, qui est sorti 10 ans avant, qui a fait 1 million d'entrées, donc énorme succès pour une comédie de gens que pas beaucoup de gens connaissent.
Oui.
Et en fait, tout l'humour est reposé sur le fait qu'on sait que c'est un film de Cad et Olivier. Et par exemple, il y a un plan où il dit mais pourquoi il y a deux femmes sublimes là-bas ? Mais c'est pour la bande-annonce en fait. Rien que ce genre de vanne est répété je sais pas combien de fois. Il y a le mec qui gère le budget du film qui arrive en plein film qui dit non, ça va pas être possible. Enfin, c'est ce genre de vanne que je fais à outrance comme ça.
Ouais.
Ça vient de ce film-là et c'est toujours un plaisir déjà de le revoir. Mais surtout, c'est de là que vient tout mon humour. Pour moi, il a marqué ma décennie, puisqu'on parle de ça. On parle des films qui ont marqué la décennie.
Ouais.
Pour moi, il a marqué ma décennie. Et je pense qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne regarderez plus déjà Cad Merad de la même manière. Et, pardon, je fais tomber mon verre. Mais surtout, je pense qu'il y a énormément de vannes qui vont rester en vous. Par exemple, celle de l'avion qui va à 600. À 600 quoi ? Bah ça, je sais pas, il m'a pas dit. Ça, pour moi, je sors cette réplique constamment. Bon. Et personne n'a la ref parce que personne n'a vu ce film. Il a fait 200 000 entrées, je suis dégoûté.
C'est un peu comme la tour de contrôle infernale.
Ouais, le deuxième ?
Ouais.
Oui, personne l'a vu.
Très bon film, personne l'a vu.
Ouais, c'est ça. Parce que, en vrai, c'est le premier film, je faisais... Mais bon, voilà.
Non. La tour de contrôle infernale est très...
Non, mais parce que le premier film se suffisait à lui, même, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais bon.
Bon, enfin voilà, voilà.
Donc, voilà, bah, c'est la fin de cette roco de cette semaine.
On peut résumer les
films Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico.
Into the Spider-Verse de Percy Shetty, Ramsey et Rotman.
La fille du 14 juillet de Antonin Pierre-Edgetko.
Réalité de Quentin Dupieux.
La chasse de Thomas Wittenberg.
Mais qui a retué Pamela Rose de Kad Merad et Olivier Barou.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oh là là, c'est scandaleux.